Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Vous nous regardez sur YouTube, vous nous écoutez sur les différentes plateformes de streaming podcast et vous nous suivez sans doute sur www.broussel-derval.com. Nous sommes à Transfert et je reçois pour un nouvel épisode Olivier Bollier. Merci Olive de venir nous voir.
Merci à toi pour l'invitation.
Alors c'est cool parce que Olive, d'abord, c'est un grand ami. Ensuite, c'est un grand préparateur physique dans tous les sens du terme. Et c'est quelqu'un qui a accessoirement popularisé le concept de tempo en France. Même s'il n'en est pas l'inventeur, il a en tout cas écrit un livre qui fait encore aujourd'hui référence. Hein, Approche moderne des méthodes de musculation.
Approche moderne du développement de la force.
Du développement de la force. Approche moderne du développement de la force, autant pour moi. C'est pourtant, je crois, moi qui ai trouvé le titre en plus, non ?
Et toi, tu as écrit la préface.
Autant pour moi. En tout cas, c'est un super livre que je vous recommande. Et dedans, de manière extrêmement concrète, pratique et plutôt exhaustive, il aborde ce concept de tempo qui est de plus en plus démocratisé. Il y a de plus en plus de gens maintenant qui l'utilisent. Et c'est vrai que c'était les premiers écrits qu'on trouvait en langue française sur le sujet. Quoi.
Alors, historiquement, les tempos d'exécution, c'est ni plus ni moins que la mesure du temps qui passe entre deux répétitions. Donc, ce n'est pas une invention. Si tant est que le temps qui passe soit une invention, ce n'est pas une invention. Par contre, ce codage, ce système, il a été mis au point à l'origine par un coach australien qui s'appelle Ian King. Au début, le codage du tempo se faisait en trois chiffres. Là, on parle des années 90. Hein. La plupart des gens qui nous regardent n'étaient pas nés. Mais bon, le monde tournait quand même. Et il y avait un codage à trois chiffres. Et après, Charles Poliquin, feu Charles Poliquin, a rajouté un chiffre et l'a largement démocratisé au niveau mondial. Mais en fait, le tempo, ce n'est pas une méthode, c'est tout simplement un codage du temps qui passe. Et comment ça m'est venu, cet intérêt du tempo? Ça m'est venu par rapport à la physiologie de l'exercice. Une des premières choses que l'on apprend en physio, dans tous les STAPS du monde, dans toutes les écoles qui préparent au BP, c'est le système énergétique. On nous dit qu'il y en a différents en fonction de l'intensité et de la durée. C'est là où je veux attirer ton attention. En fonction de l'intensité et de la durée, il y a différents systèmes énergétiques. On ne va pas, surtout pas les en parler aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais par contre, ce qui m'interrogeait quand j'étais étudiant dans les années 90, c'est qu'il y avait ces systèmes énergétiques et il y avait la musculation. La musculation, on comptait des répétitions. Il y avait le système énergétique qu'on illustrait beaucoup avec plutôt la course à pied, plutôt
dominante athlétique.
Dominante athlétique. Et je ne comprenais pas pourquoi on ne faisait pas le lien. Alors, le muscle, c'est le muscle. Hein. Donc, il n'y avait pas de raison. Et quand j'ai commencé à rencontrer ces concepts-là, ça y est, on avait les premiers auteurs, les premiers entraîneurs qui disaient tel système énergétique est sollicité parce que le temps sous tension de cette série renvoie à la glycolyse anaérobie, etc. etc. Donc c'est comme ça que je m'y suis vraiment intéressé.
Alors c'est marrant, c'est dans les écrits d'Ian King que tu
les premiers, ouais.
Tu perçois les premiers trucs, donc ouais. Book of Muscle.
Je crois que c'est Get Buffed, le premier, premier du nom.
Ouais. C'est super livre, hein. Autant les titres
sont
très américains. Ouais. Mais ce sont des super livres pour ouais. ceux qui...
Il est bien moins connu que Charles Poliquin.
Ça n'a pas été traduit en français, mais ceux qui lisent l'anglais, je vous recommande vraiment Get Buffed et Book of Muscle. Je ne sais pas lequel est antérieur auquel, mais effectivement...
Je ne sais plus non plus.
Et évidemment, les écrits de Charles Poliquin qui sont juste hyper nombreux et passionnants. Il y a toujours le Poliquin Group qui est toujours actif, même si Charles Poliquin passe son âme à arrêter d'être parmi nous et de produire, du coup. Il y a ce site qui reste une grosse référence pour tous les collègues coachs qui peuvent lire l'anglais.
Ouais.
Donc, du coup, tu t'intéresses au tempo et tu commences à développer tes propres méthodes dessus et à vulgariser les contenus.
Ouais. Et puis, à l'enseigner. Le codage, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est un codage à 4 chiffres. Parfois, dans les programmes d'entraînement, vous voyez 3 séries de 10 en 30-20 ou en 3020. Ça veut dire quoi, ce codage à 4 chiffres? Ces 4 chiffres renvoient aux 4 phases du mouvement que l'on retrouve dans tous les mouvements de musculation. Le premier chiffre, c'est la phase excentrique du mouvement. Si on prend l'exemple d'un développé, la phase où où tu amènes la barre
de la poitrine.
Le point d'origine et la terminaison s'éloignent, c'est la phase excentrique du mouvement, c'est le premier chiffre. Par exemple, dans mon exemple, j'ai dit quoi, 30-20, et bien 3 secondes de phase excentrique. Mais avant, on ne monitorait pas précisément. Tandis que là, si tu dis à ton athlète, tu me fais X répétitions en 30-20, tu comptes à voix haute, si l'athlète n'est pas familiarisé, pour qu'il fasse réellement les 3 secondes. Disons que c'est ça aussi qui m'a plu, c'est pas laissé à l'interprétation.
Ah bah c'est sûr que si on met juste 3 séries de 8 répétitions, on peut avoir des séries pour une même charge, un même niveau d'intensité relative à chaque athlète, qui est complètement différente. Parce que si effectivement on prend une seconde de plus dans chaque descente, l'impact excentrique n'est pas du tout le même.
Multiplié par le nombre de séries. Premier chiffre, la phase excentrique. Deuxième chiffre, c'est le moment où le muscle est le plus étiré possible. C'est une phase qui pourrait être isométrique ou pas. Mais là encore, ce n'est pas laissé à l'interprétation de l'athlète. La plupart du temps, l'athlète, de toute façon, il ne va pas rester en isométrie en phase d'étirement max, puisqu'il est en train de se fatiguer.
Mais on peut décider, pour tout un tas de raisons, de l'y laisser une seconde, deux secondes, trois.
Et la preuve, il y a même des méthodes, comme le plus célèbre statodynamique. Le statodynamique, c'est ni plus ni moins que 3 secondes de temps de maintien isométrique à la transition excentrique-concentrique. Mais le statodynamique existait il y a une vingtaine d'années, mais en tant que méthode. Et finalement, le tempo, c'est ni plus ni moins que cette modulation de la phase isométrique lorsque le muscle est très étiré.
Et après, puis, même sur le statodynamique, je te coupe, excuse-moi, mais même sur le statodynamique, on ne monitorait que la phase isométrique.
Voilà.
Donc, on pouvait là aussi faire un drop au niveau de la charge excentrique,
comme
prendre 3 secondes avant de repartir.
Donc après, on a déjà 2 chiffres. Le troisième, c'est la phase concentrique du mouvement. Alors là, en préparation physique sportive, c'est pas si souvent que ça que je conseille aux athlètes d'avoir une durée de phase concentrique plus lente que ce qu'ils seraient capables de faire. Si tu peux pousser la barre en 1,2 secondes, je prends un exemple, et que tu la pousses volontairement en 1,8 secondes, c'est-à-dire si tu vas plus lentement que ce que tu pourrais faire, là, on a un problème dans la notion de transfert. Parce que l'important, ce n'est pas la vitesse réelle de la barre, c'est l'ordre que le cerveau envoie à tes muscles. C'est ça, c'est l'intention. Si l'ordre est de « je bouge la barre le plus vite possible », si la charge est lourde, tu ne vas pas l'acheter au plafond. C'est mécanique. Et par contre, ton cerveau a envoyé l'ordre à ton muscle « je bouge la barre le plus vite possible ». Et la notion de transfert de force, là, tu as plus de chances qu'elle se fasse sur le terrain. Par contre, si tu fais du concentrique lent, volontaire, d'une manière un peu trop souvent, là, c'est un peu comme si tu entraînais ton athlète à être lent. Et là, on a un problème en prépa physique.
C'est pour ça que de nombreux auteurs, dont moi, remplacent ce troisième chiffre par un X.
C'est ça.
Pour exprimer clairement l'intention d'exploser. Alors, ça pose juste un problème méthodologique, juste une petite parenthèse pratique. C'est quand on remplace par un chiffre et que du coup, on accumule de la data sur un document Excel, sur une plateforme ou quoi que ce soit, et bien du coup, on n'arrive pas à accumuler le temps sous tension passé. Tu vas nous expliquer après ce qu'est le temps sous tension, bien évidemment, mais on n'arrive pas à accumuler de la data sur le temps sous tension passé en phase concentrique. Du coup, ça monitore un peu moins. On annule purement et simplement cette phase-là. On dit, de toute façon, on accélère.
On l'annule. Ou moi, ce que je fais, je mets la durée moyenne de l'exercice de la phase concentrique. Typiquement, en force max, tu as des durées concentriques de 3 secondes. Donc, je mets du 30-20, par exemple, pour avoir un chiffre comptable, pour que ça, justement, dans ton fichier, comme ça, tu as une information du temps sous tension global. Mais c'est un 2 qui veut dire X, en fait. C'est-à-dire, je dis à l'athlète, tu animes la barre de la plus grande vitesse possible. Mais moi, je sais que ça va être environ 2 secondes de moyenne. Comme ça, je pourrais faire le calcul ou l'ordinateur pourra le faire pour moi.
C'est ce qui va se passer concrètement. En fait, pour moi, il y a 2 phases où, ce temps concentrique est forcément rallongé. C'est effectivement les phases maximum en charge max. On va remonter. C'est rare qu'on mette 3 secondes, sauf sur une barre vraiment de perf en montant en escalier, etc. Mais nous, en préparation physique, on va dire qu'effectivement, c'est 1 ou 2 secondes. Voilà, c'est relativement simple à calibrer.
C'est ça.
Et puis, les méthodes culturistes, où on va avoir parfois 8 reps au max pour 8, pour 4 secondes excentriques, 4 secondes concentriques, très très lente, très contrôlée, pour vraiment de la...
Et tu as aussi la réathlée, par exemple. Tu récupères un athlète dans les premières séances de réathlée. C'est rare que tu lui demandes, ça dépend de la pathologie, mais on essaye de généraliser. C'est rare que tu lui demandes un excentrique, un concentrique hyper explosif. Donc il y a aussi les cas de figure de retour de blessure où, ben, avant d'aller vite, faut-il encore être capable de le faire doucement, volontairement, et puis on accélérera plus tard. Mais globalement, en prépa physique, essayons de dire toujours aux athlètes, pousse fort.
L'intention.
L'intention, plus que la vitesse réelle.
Donc là, on a nos trois premiers chiffres, ouais. Et c'est important de les regrouper tous les trois au départ, parce que c'est ce qu'on appelle...
Le temps sous tension.
Le temps sous tension.
Alors, on peut aussi mettre dans le temps sous tension le dernier chiffre. Alors, ça dépend, c'est pas très grave de le faire ou de pas le faire. Le quatrième chiffre, c'est le temps entre deux reps. Donc si on résume, un 30-20, ça serait 3 secondes ici, 0 secondes à la phase de transition.
Ça repart tout de suite.
On pousse en X, mais ça correspond à 2. Et puis voilà, on est là.
Donc on est probablement sur une charge au-delà de 90% du max.
On est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on laisse les athlètes faire, spontanément, quand c'est lourd, quand c'est dur, spontanément, quand tu regardes les athlètes, ils prennent une micro-récup entre les reps. Normal, c'est dur.
Donc, en général, avant de redescendre, c'est sur ça. La deuxième rep,
alors
on
ça
a
se voit très bien
seconde.
En squat, parce que c'est très facile, tu verras où tout, tu es en position de repos, entre guillemets. Mais là encore, est-ce qu'on laisse le choix à l'athlète de se micro-récupérer ou pas? Si tu fais, par exemple, faites l'essai, faites un 5-5 à 100 kg, peu importe, en imposant un 0 au quatrième chiffre, c'est-à-dire qu'entre chaque rep, tu repars sans t'arrêter, et faites un 5-5 dès la première rep, imposer 2 à 3 secondes de micro-récup entre chaque répétition, et vous verrez que vous pourrez mettre un tout petit peu plus lourd, parce que cette micro-récup, ben, elle est utile pour rendre le poids le plus lourd possible. Donc là encore, le dernier chiffre, il nous sert à jouer un peu sur la micro-récup.
D'ailleurs, c'est pour ça que moi, personnellement, sur mon fichier Excel, on donne des petites recettes
c'est le but.
De boulot. Sur mon fichier Excel, pour ma part, j'ai en réalité 4 cases séparées. 3 qui prennent les 3 premiers chiffres et qui vont alimenter un total de temps sous tension. Et le dernier, je le prends à part et lui, il vient rejoindre le nombre de secondes total de la récup.
C'est ça, deux façons de faire.
Alors, deux façons de faire, je mets quand même un bémol, c'est que quand on travaille sur des méthodes, par exemple Hardstyle, dont vous m'entendez souvent parler dans cette chaîne ou sur mon site, ou type Strong First, etc., où les phases entre les reps sont des phases d'activation, des phases de surtension, de surrecrutement, et bien là, du coup, c'est plus du tout de la récup. Au contraire, c'est même du gainage actif dynamique et de la saturation musculaire. Donc, tout dépend aussi de la méthode et du courant de travail dans lequel on se situe à tel moment. Je pense même à un truc, on va citer un collègue qui vulgarise peut-être un peu moins en ce moment, mais qui a beaucoup produit sur Internet, Sébastien Bem.
Oui, absolument.
Un mec de grande valeur que j'apprécie beaucoup, qui à un moment donné avait même avancé des arguments sur une méthode de travail à haute intensité, juste en mise en tension par une haute charge sur cette phase, sur ce dernier chiffre en fait.
C'était je ne me rappelle plus de cette méthode.
Statique, il appelait ça.
D'accord.
Le statique. Et c'est pour dire à quel point, c'est juste pour illustrer à quel point ce dernier chiffre, selon la méthode dans laquelle on s'inscrit, peut être soit de la récup, soit là aussi quand même malgré tout de la mise sous tension.
Il y a un dernier petit piège avec ce dernier chiffre, c'est que dans les patterns de tirage, c'est inversé. C'est-à-dire que tu te reposes aux tractions, tu te reposes entre guillemets quand tu es en bas, et quand tu es en haut, tu es dans le dur.
Donc c'est,
mais c'est le même principe, c'est juste inversé.
C'est juste inversé. Moi, je garde le même codage personnellement et j'inverse juste
c'est
les
ça. On garde toujours tous le même codage, parce que sinon, c'est la panique. Mais il y a juste le moment où elle la récup, mais fondamentalement, ça ne change pas.
On ne commence pas au même moment du code.
C'est
en fait.
Ça. Ouais. Mais le code, c'est chiffre 1, l'excentrique, chiffre 2, la transition excentrico-concentrique, chiffre 3, le concentrique, et chiffre 4, la transition avec la rep suivante.
Alors, quels sont les grands tempos que tu utilises et quels sont les objectifs que tu poursuis avec toi?
Alors, s'il faut donner un tempo un peu universel, c'est à la fois un piège, mais enfin, il faut quand même donner quelque chose un peu de recette. Le tempo, le 30x0, c'est un peu, je trouve, le tempo universel. Pourquoi? Enfin, universel, utile un peu à tout le monde. Pourquoi? Parce que cet allongement excentrique de 3 secondes, ce n'est pas ce que fait naturellement un athlète. 3 secondes, c'est un peu plus long que ce que fait naturellement l'athlète.
Genre plus vers 2, quoi. On contrôle la charge, quoi.
C'est ça, on contrôle. Et des fois, on ne contrôle pas tant que ça. Donc, quand tu forces l'athlète à freiner la barre en 3 secondes, tu commences à avoir un nouveau stimulus qui crée des nouvelles adaptations parce que c'est nouveau. Et donc, tu obtiens des gains grâce à cet allongement excentrique. Mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus la quatrième dimension. C'est-à-dire l'athlète, il comprend assez simplement ce que tu lui expliques. Si tu commences à faire des tempos avec
et
des
ça
phases
te flingue pas la qualité de la phase excentrique pour autant.
Voilà.
De la phase concentrique, pardon, pour autant. Tu t'es pas saturé complètement
en
3 secondes.
C'est simple d'accès.
Ouais.
Donc tu vois, ce tempo-là, il est utile. Et après, globalement, il faut voir juste le tempo comme un nouveau levier. D'habitude, on avait nos nombres de reps, nos nombres de séries, notre récup. Et maintenant, pour créer des nouvelles adaptations, tu as aussi le temps sous tension. C'est pas une méthode en soi, c'est un levier sur lequel tu peux...
C'est un indicateur de charge qui permet de la préciser.
C'est ça.
Donc, c'est vrai que bon, on en a parlé un petit peu sur les phases, effectivement, de force maximale. On va vraisemblablement cadrer un petit peu plus, notamment dans les contrastes de méthode, le premier chiffre, qui va être vraiment important, parce que soit on veut de la qualité sur la restitution dans la phase concentrique, et donc il ne faut pas qu'il soit trop long, soit à l'inverse, on veut un impact excentrique important, et du coup, bah, là, on peut aller jusqu'à quoi, 4 secondes.
Moi, je dépasse le total des deux premiers chiffres ne dépasse jamais 5 secondes.
C'est ça, ça c'est un bon repère.
Ouais. Tu vois, quand tu arrives à des excentriques de 5 secondes, c'est déjà long.
C'est déjà long.
Ou 3 secondes d'excentrique plus 2 secondes d'isométrie avant le concentrique, c'est le max du max pour moi.
On va dire pour les deux premiers chiffres, 3 plus 2 ou 4 plus 0.
C'est vraiment rarissime. Mais voilà.
Ouais.
Pourquoi, d'expérience, quand tu dépasses 5 secondes de pré-concentrique, les avantages à freiner la barre sont partiellement annulés par justement l'allègement tel que tu dois faire sur la barre, ça annule une partie des bénéfices. Donc je trouve que l'optimal, il se fait à 5 secondes max. Après,
après on peut se demander. Ceci dit, sur un beau 4 secondes ou 5 secondes, on peut même avoir un troisième chiffre de 0. Hein. Rappelez-vous qu'on a des techniques, notamment de par heure, qui vont pouvoir récupérer les barres. On peut avoir des barres à crochet dont on se débarrasse pour ne pas avoir une phase concentrique du tout. On a aussi maintenant des machines à pression qui nous permettent de réguler en cours de série, en cours de rep même, la charge qui est appliquée. Donc le troisième chiffre, qui est souvent un X, on l'a dit, ça peut aussi être un zéro. On peut aussi enlever purement et simplement la phase concentrique. Ça existe.
C'est possible.
Sur la programmation de l'entraînement, et on finira là-dessus, le temps sous tension et ce codage, tu l'intègres comment, toi, dans tes méthodes de travail ?
La première chose, c'est que plus je suis loin des échéances compétitives, plus les tempos sont éloignés de l'exigence de la tâche. En clair, si tu travailles dans une discipline où le cycle étirement-contraction est crucial, toutes les disciplines balistiques, explosives, tu dois cultiver pour ton athlète sa capacité à absorber de l'énergie élastique dans la phase excentrique et à la rendre dans la phase concentrique. Mais ça se fait à haute vitesse. Donc plutôt des excentriques très courts. Donc dans ces sports-là, loin des compétitions, j'aurais plutôt des phases préconcentriques plutôt longues, donc aspécifiques finalement. Et quand je me rapproche des exigences compétitives pour ce type de sport, et bien là, à ce moment-là, j'essaye de me rapprocher de la réalité, on va dire, biomécanique de l'activité. Mmh. Pour faire simple, hein, parce qu'on va pas... Mais déjà, on peut faire partir du général au spécifique. Ça paraît être une bonne approche.
C'est une bonne approche, c'est une bonne option. Ok, Olivier, un grand merci d'être venu nous voir. C'est toujours un plaisir. Et surtout qu'à chaque fois, les gens repartent avec des vraies recettes, des vrais repères. Merci pour tout le travail de vulgarisation que tu fais aussi. Je sais que c'est beaucoup de boulot, j'en sais quelque chose. Et vous pouvez d'ailleurs suivre Olivier hein, sur les réseaux sociaux. C'est le coach Bollier sur Twitter, mais il est aussi sur Instagram et sur Facebook. Vous le trouvez à Olivier Bollier assez facilement.
C'est ça.
Il y a évidemment ses ouvrages que vous connaissez peut-être sans doute. Si vous ne les avez pas lus, je vous engage à les lire, d'autant qu'il y en a quelques-uns qu'on a coécrits, donc ça me fera d'autant plus plaisir si vous les lisez. Et puis vous nous suivez toujours sur les différentes plateformes de streaming. Abonnez-vous hein, sur Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast.
Et tu es sur le PlayStation Network aussi. Non.
c'est un autre blaze, mais c'est autre chose. Non, ne vous y frottez pas, j'ai un gros niveau. Et bien sûr sur YouTube et toujours sur www.broussal-derval.com. Vous aurez toujours une tonne d'articles. On en poste presque un par jour. et de podcasts. Tout ça est gratuit. Alors soutenez-nous, partagez et abonnez-vous. Merci à tous.